La dame, qui allait chanter, se dirigea vers le piano, et je me sentis tout à coup une âme féroce, une révolte concentrée et immobile de prisonnier. Pendant qu'elle fendait, difficilement, les jupes assises, sa robe collée aux genoux comme une onde bourbeuse, je lui souhaitais la syncope, la mort ou même la rupture simultanée de ses quatre jarretelles. Il lui restait encore quelques mètres à franchir. 30 secondes, l'espace d'un cataclysme. Mais elle marcha, sereine, sur quelques pieds vernis, effrangea la dentelle d'un volant, murmura « Pardon ». Salua et sourit, la main déjà sur l'obscure palissandre du Pleyel au reflet de scènes nocturnes. Je commençais à souffrir. J'aperçus, à travers le brouillard dansant dont se nimbe l'illustre des soirées finissantes, le dos arqué de mon gros ami Maugis, son bras arrondi qui défendait contre les coups d'un verre plein. Je sentis que je le haïssais d'être parvenu jusqu'à la salle du buffet, tandis que je m'étiolais bloqué, assis de biais sur la canne dorée d'un siège fragile. Avec une froideur insolente, je dévisageais la dame qui allait chanter, et je retins le ricanement d'une diabolique joie à la trouver plus laide encore que je l'espérais. Cuirassée de satin blanc métallique, elle portait haut une tête casquée de cheveux d'un blond violent et artificiel. Toute l'arrogance des femmes trop petites éclatait dans ses yeux durs, où il y avait beaucoup de bleu et pas assez de noir. Les pommettes saillantes, le nez mobile, ouvert, le menton solide et prêt à l'engueulade, tout cela lui composait une face carline, agressive, à qui, avant qu'elle eût parlé, j'eusse répondu « Mange !» Et la bouche. J'attachais ma contemplation douloureuse sur ses lèvres inégales, fendues à la diable par un canif distrait. Je supputais la vaste ouverture qu'elle démasquerait tout à l'heure, la qualité des sons que mugirait cet antre, le beau gueuloir. Par avance, les oreilles m'en sifflèrent et je serrai les mâchoires. La dame qui allait chanter se campa impudique face à l'assistance et se hissa dans son corset droit pour faire saillir sa gorge en pomme. Elle respira fortement, toussa et se racla la gorge à la manière dégoûtante des grands artistes. Dans le silence angoissé où grinçaient, pancas minuscules, les armatures parfumées des éventails, le piano préluda. Et soudain, une note aiguë, un cri vibrant troua ma cervelle, hérissa la peau de mon échine. La dame chantait. À ce premier cri, jailli du plus profond de sa poitrine, succéda la langueur d'une phrase, nuancée par le mezzo le plus velouté, le plus plein, le plus tangible que j'eusse entendu jamais. Saisi, je relevai mon regard vers la dame qui chantait. Elle avait sûrement grandi depuis un instant. Les yeux larges ouverts et aveugles, elle contemplait quelque chose d'invisible vers quoi tout son corps s'élançait. Le bleu de ses yeux avait noirci et sa chevelure, teinte ou non, la coiffait d'une flamme fixe toute droite. Sa grande bouche généreuse s'ouvrait et j'en voyais s'envoler les notes brûlantes, les unes pareilles à des bulles d'or, les autres comme de rondes roses pures. Des tris brillaient comme un ruisseau frémissant, comme une couleuvre fine. De lentes vocalises me caressaient comme une main traînante et fraîche. Oh, voix inoubliable! Je me pris à contempler, fasciné, cette grande bouche aux lèvres fardées, roulées sur des dents larges, cette porte d'or des sons, cet écrin de 1000 joyaux. Un sang rose colorait les pommettes kalmouks, les épaules enflées d'un souffle mesuré, la gorge offerte. Au bas du buste tendu dans une immobilité passionnée, deux expressives petites mains tordaient leurs doigts nus. Seuls les yeux, presque noirs, planaient au-dessus de nous, au-dessus de tout, aveugles et sereins.